Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à ce qu'on a vu ce matin ou peut-être par rapport à ce que l'on a exploré hier Oui.
Moi, je ne me sens pas très habile dans cet exercice de la vision pénétrante. J'ai une image, c'est comme si j'avais les doigts gourds et puis qu'il faut que je fasse quelque chose de très très délicat. Mais tout à l'heure dans la marche, j'ai touché quelque chose, je crois, qui est qu'en fait, quand je suis en présence de sensations agréables, j'y reste, hein, que ce soit la contemplation d'une fleur, je l'ai vu avec les fleurs. Ce parterre n'est pas très esthétique à mon goût. Alors bon, les fleurs sont jolies, mais du coup, je ne plonge pas dans une contemplation ravie, je dirais. Alors que quand je me trouve face à quelque chose qui vraiment suscite une sensation très agréable, j'y reste, quoi. J'y reste, tout bêtement. Voilà. Et par contre, effectivement, quand c'est moins agréable, c'est pas des sensations très fortement désagréables, mais quand c'est pas très agréable, je m'en détourne. Je me suis rendu compte de ça. Voilà.
Voilà. Merci. Alors le premier, ce qui est intéressant, c'est par rapport à il y a le contact avec le parterre de fleurs. Et si on est jardinier ou si on a du design, de l'esthétique, donc il y a le contact avec la fleur elle-même, la forme et la couleur. Et il y a la perception. Il y a, parce que la perception va être très conditionnée. C'est un peu, je trouve qu'il y a un très beau très, mot très utile en français qui est très dur à traduire dans d'autres langues, c'est la déformation professionnelle. Et donc, si on a cultivé quelque chose d'une manière plus poussée, la perception va devenir plus conditionnée dans un sens. Et donc, il va y avoir un peu la question, est-ce que je regarde juste la forme, mais à un niveau intentionnel et de perception, on pourrait presque dire de la forme pure, sans que s'y ajoute, et ça c'est très dur à faire, et c'est pas l'intérêt, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe, c'est ce que vous décriviez, qu'il y a la forme, mais si on y ajoute dans un sens une perception formée, construite, esthétique ou jardinière ou quoi que ce soit, ça va changer le ressenti. Et donc, quelqu'un qui n'aurait pas cette formation serait plus la forme pure, on pourrait dire, entre guillemets. Quelqu'un qui a plus de formation esthétique, jardinière, etc., va avoir un autre ressenti. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention d'imaginer que mon ressenti, tout le monde va ressentir la même chose que moi par rapport au même objet. Parce que souvent, on fait cette erreur. On pense que c'est dans l'objet, mais en fait, c'est dans la personne. Mais si c'est dans l'objet, tout le monde, on assume, on présume, tout le monde doit avoir le même ressenti. Et c'est pour ça, une fois, j'enseignais donc l'écoute, la méditation de l'écoute, et que je trouve c'est une très belle méditation, j'aime beaucoup, très utile pour moi. Et il y a un monsieur qui vient et qui me dit, je suis ingénieur de son, je ne peux pas faire cette méditation. Mais parce qu'il écoutait les sons, mais alors il avait une perception des sons qui était extrêmement différente de moi. Et bien sûr, si la personne n'entend pas très bien, là il y aura l'effet presque opposé. Donc on sera même pas, on ne prend même pas à avoir un ressenti par rapport à quelque chose qu'on n'entend pas. Et donc oui, ça c'est très intéressant votre commentaire par rapport à ça. Que quand on peut vraiment juste pas apporter, parce qu'on a un ressenti de quelque chose immédiat, et donc on peut avoir plus un ressenti fort, que si des fois le plus on apporte de perception, ou la perception est là de toute façon, c'est pas nous qui l'apportons, elle est là. Des fois ça peut rendre le ressenti plus fort, mais des fois en fait ça peut le diminuer. Et ça m'arrive souvent quand je vais avec mon frère et ma belle-sœur qui sont en très haut niveau artistique, esthétique, dû à leur métier. Un est artiste, l'autre s'occupe d'expositions. Et donc, si on voit... Moi, je vois l'objet comme l'objet. Je n'ai pas de formation intellectuelle, artistique du tout. Et donc, moi, je suis sur l'objet, sur le moment. Et donc, j'étais dans une expo avec eux. Et il y avait ce truc assez intéressant, fait de charbon de bois, etc., etc. Moi, je trouvais que c'était intéressant, l'idée, la conception, ce qui avait été fait et tout ça. Et ma belle-sœur de dire... Alors, je lui dis... Parce que de temps en temps, je leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent, pour vérifier. Et ma belle-sœur de me dire, ah, ça, c'était bien il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans, ils avaient un bon ressenti par rapport à ça. Et maintenant, ça devenait plus neutre. Alors, moi, je me suis dit, la pauvre, l'artiste, la pauvre. J'ai eu un petit coup de cœur pour elle. Donc, oui, il y a ça aussi. Et... Comme vous dites, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait quand le ressenti est déplaisant. Et je dis, oui, il y a très facilement une sorte d'évitement. Et un évitement qui peut être sain, parce qu'un évitement qui va nous aider à ne pas être pris par le ressenti déplaisant, mais il faut faire attention aussi que l'évitement, des fois, peut être sain et utile. Et en même temps, des fois, la pleine conscience peut nous aider à être avec le ressenti, sans évitement. Et là, ce qui peut nous aider, c'est le fait qu'on voit que ça change, soit en lui-même ou en eux-mêmes, ou que le ressenti change vite. Parce que si on évite tout le temps, on ne peut pas voir en fait combien de temps le ressenti va durer. Donc, des fois, je pense que c'est utile, hein, l'évitement peut être utile. Et d'autres fois, il peut être intéressant de noter, d'avoir cette attention accueillante pour combien de temps ça va durer. Mais on a un truc assez instinctif par rapport à ça. Oui.
Donc, je n'ai pas la formation de madame, sa connaissance et sa finesse, et du coup sa perception artistique des choses. Donc, je trouvais que finalement c'était assez joli, c'est joli. Et à un moment, en fait, il y a eu une sorte de vol de moucherons au-dessus des tulipes qui m'a beaucoup dérangée, une totalité désagréable parce que j'ai du mal avec les moucherons. Et puis, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai. Tout de suite eu des pensées qui ont émergé pour venir apporter quelque chose d'agréable. C'est-à-dire, je me suis dit, oui, tu vois, les moucherons, c'est pas joli, c'est une trajectoire dont tu vois pas le sens, franchement, quel intérêt, ça vient perturber ce paysage qui donnait quelque chose d'agréable. Et là, j'ai créé une pensée pour me dire, voilà, les moucherons, ils ont une utilité, peut-être que leur trajectoire bizarre, c'est un peu poétique, donc tu pourrais trouver ça agréable, en fait. Il y a vraiment eu une construction de pensée pour venir mettre quelque chose d'agréable parce que ce nouveau stimulus, en fait, il était venu apporter quelque chose de désagréable.
Oui, alors ça, c'est ce que ça montre. Merci. Ce que ça montre, c'est en fait que vraiment la tonalité est construite, est vraiment construite de plein de différentes choses et qu'aussi, des fois, il peut être utile de la transformer. Parce que souvent, on a l'impression qu'on est esclave de cette tonalité, que c'est donné, c'est l'objet, c'est comme ça, ça ne va pas changer et tout ça. Et des fois, c'est juste si un petit changement d'optique, au lieu de réagir au premier contact, les moucherons m'embêtent, sont désagréables, me font ci, me font ça, etc. Et donc, généralement, il y aura un petit peu un lien qui va se faire désagréable et associatif et tout ça, où on peut avoir une autre optique. Et alors, c'est ce dont je parlais un petit peu cet après-midi aussi, c'est Est-ce que, parce que le ressenti généralement est très personnel, c'est pour ça que je parlais du soi, de la construction du soi, de la personnalité et tout cet après-midi, que c'est moins en relation, c'est moins en contact. Et donc généralement, souvent, les tonalités vont définir comment moi je me relie à l'objet. Donc ça va être souvent une définition de soi qui va ajouter aux différentes constructions de soi qu'on a. J'en parlais plus cet après-midi. Et là, dans le sens, ce que vous avez fait, c'est le fait que vous êtes plus allé à l'optique du moucheron. Le moucheron, comment il verrait ça dans un sens ? Le moucheron fait son truc parce que, dans un sens, il est construit pour faire son truc de cette manière. Il y a beaucoup de chances qu'il a un rapport avec les fleurs ou un rapport avec ci, un rapport avec ça. Et c'est ça qui peut être intéressant par rapport à la tonalité du ressenti, c'est de voir où je me place. Est-ce que je me place par rapport juste à mon ressenti personnel de ce qui se passe, et c'est ma seule optique qui va un peu réduire la vision des choses, ou est-ce que je peux me mettre dans l'optique de l'autre, que ce soit un être humain, que ce soit des moucherons, que ce soit quoi que ce soit. Et je pense que un peu l'idée, une des idées de la pleine conscience, c'est pas, il faut faire attention, c'est pas qu'on disparaisse, parce qu'on est là, c'est nous qui voyons et c'est nous qui ressentons, pas quelqu'un d'autre. Mais la pleine conscience et l'attention bienveillante va essayer de nous aider à être moins dans une sorte de auto-centrage, auto-protection, et en faisant dissoudre un petit peu cet auto-centrage, cette auto-protection, on va pouvoir voir l'autre, pas seulement en rapport par rapport à soi, mais un peu par rapport à l'objet, à la personne, à l'animal eux-mêmes. Et ça, je trouve que ça, c'est un peu là, cette pleine conscience, et aussi de voir que l'ancrage va nous aider à être moins perdus dans nos pensées qui sont beaucoup autour de moi, moi, moi. Ça, je pense qu'il faut voir que quand on médite, je vous parle d'ancrage, de revenir à la respiration, de revenir au son, au corps, mais c'est pas pour l'optique, c'est pas pour que vous soyez 100% focalisé sur la respiration. L'objet est juste un outil. L'optique, c'est en revenant de nouveau à la respiration, ça nous aide à dissoudre les schémas habituels où je fais ci, je fais ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Et ça va nous aider à ramener les pensées, etc., à leur fonction. Fonction de planifier, fonction d'imaginer, etc., etc. Et donc ça va apporter un petit peu une ouverture par rapport à cette construction de soi. De la même manière, quand on apporte l'optique du regard profond, cette vision pénétrante, le problème avec les mots, regard profond, vision pénétrante, ça nous donne l'impression que c'est quelque chose d'incroyable. Et ce serait mieux de dire que c'est une sorte de questionnement. Je parlerai du questionnement cet après-midi aussi. C'est une sorte de questionnement expérientiel, une sorte d'exploration. Est-ce que les choses qui nous aideraient à... Est-ce que les choses sont vraiment totalement fixées de cette manière, c'est comme ça, ou est-ce qu'il pourrait y avoir un peu de flexibilité dans ce qui se passe? Et donc, c'est ce que vous avez fait, de passer de « c'est comme ça » par rapport à moi, est-ce que je peux avoir une autre optique? Est-ce que je peux regarder ce contact d'une autre manière? Et donc, ce qu'on fait dans la méditation, quand on vous dit d'essayer d'être conscient du changement, c'est en partie pour ça, pour nous aider, juste en étant conscient du changement, de questionner un petit peu, ça questionne un petit peu notre tendance à c'est toujours comme ça, qui rend un peu, les moustiques sont toujours comme ça, les moucherons sont toujours comme ça, ou, ça c'est toujours comme ça. Alors moi en général je ne suis pas fan des moustiques, mais je peux, de temps en temps je les plaque, et puis de temps en temps je vais chercher mon petit verre et puis je les mets dehors, enfin, ça dépendra d'où je suis et du ressenti et des tas d'autres choses. Et donc c'est ça qui est intéressant, de changer un petit peu l'optique. Ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps changer l'optique. De nouveau, il faut faire attention. Des fois, on veut explorer pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire. Mais des fois, c'est intéressant juste de changer l'optique comme ça.
Ce que vous disiez par rapport à décentrage et le soi, j'ai remarqué qu'il y a un rapport dynamique en fait entre les vedanas et la construction ou le décentrage du soi. Si je prends un exemple, par exemple, quand je méditais au Japon, quand on médite pendant les sessions, on est dans une vedana, c'est neutre. Et ça donne un certain décentrage. On voit qu'au fil du jour, comment le soi peut partir. Mais après, s'il y a par exemple un ressenti pas agréable. Hein. Au bout de quelques jours, je voyais que quelqu'un dans la salle, le groupe était japonaise, quelqu'un, un responsable du groupe, me regardait en tant qu'occidental, je me disais, bon, il n'est pas content que je suis là. Donc il me regarde, et au Japon, regarder quelqu'un, c'est pas très bien. Et je pensais qu'il n'est pas content, et je voyais comment toute la construction de soi, de moi, qui revenait. Après, je voulais donner un deuxième coussin, tout ça, parce que vous voyez que c'était occidental. Il vaut mieux avoir un deuxième coussin. Et je voyais comment, voilà, pendant certains 5 jours, tu es dans un calme, et le calme, c'est une sorte de vedana neutre qui te laisse de partir complètement. Et comment, après, quand tu te sens un peu agressé ou espié, comment ça se construit comme ça? Donc, il y a un rapport assez dynamique.
Oui, c'est pour ça que cet après-midi, c'est ce dont je veux parler. De voir comment. C'est pour ça que le Bouddha a dit quelque chose dans le texte. Il a toute cette phrase dont je vous parlerai cet après-midi par rapport au soi. Et donc, il dit faites attention. Quand vous avez cette tonalité du ressenti, il y a un fort rapport avec la construction de soi, comment ça va intensifier le sens que moi je suis comme ça, moi je dois faire ça, et comment ça, dans un sens on peut, comme tu dis Irakli, dans la méditation, ça peut être intéressant de regarder, de voir que de temps en temps on se sent un sens un peu plus ce ressenti apaisé, ouvert, stable. Et souvent, le soi aura un ressenti un peu plus ouvert et tout ça. Et puis, paf, il y a un contact qui est plus fort et souvent désagréable. Ça, c'est le désagréable. Pouf, on revient. Ah, moi, mais je pense que il y a deux choses qui se passent. Une chose, c'est bien sûr la réaction qu'on a très vite au ressenti désagréable. Et bien sûr, je pense que ce qui se passe, c'est un ressenti pour se reprotéger, il faut se reformer. On a une association très forte entre être très solide et fixe et être dans un truc de protection. Et je pense, en partie, la méditation nous apprend qu'on peut aussi avoir un sentiment de sécurité, de protection, sans avoir ce ressenti qui a besoin de se protéger, de se fixer comme ça. Et c'est dans un sens, on va se ressentir différemment par rapport à la façon dont on se ressent. C'est pour ça que je pense qu'il est intéressant d'abord de regarder à la tonalité, puis après de regarder qu'ont les tonalités à faire avec la façon dont on se ressent en général. Parce que quand on parle des tonalités, c'est des contacts. Ça peut être bref, ça peut durer un peu plus longtemps. Et après, quelle peut être l'association avec la façon dont on se ressent en tant que personne et comment cela change? C'est aussi ça qui est très intéressant. Comment on se définit, comment on se ressent. Bon, on en parlera plus cet après-midi.
Oui, c'est en faisant la méditation à l'extérieur, j'ai ressenti souvent des petits enchaînements que je n'avais pas perçus, en tout cas jusque-là, qui est la fleur que je trouvais belle. Et hop, en même temps, les pensées, moi j'ai l'impression que pour entretenir cette tonalité positive, des pensées du passé, de ce que je voyais quand j'étais petite, ma grand-mère, enfin, des choses qui arrivaient en même temps. Et de cette tonalité qui restait positive, en même temps, je pense, quelque chose que je ne sais pas bien ressentir, mais la nostalgie aussi, donc quelque chose qui restait agréable, positif, mais avec une tristesse. Et je l'ai ressenti aussi avec les oiseaux, mais donc j'associe le passé toujours pour entretenir l'agréable. Et, je ne sais pas, ça va vers une nostalgie. Donc,
Alors, de nouveau, moi là, c'est très, très bon commentaire. Mais c'est pour ça que je parlais, je parlais parce que le Bouddha en parlait dans le texte, par rapport à cette tonalité du passé, tonalité du futur, tonalité d'ici maintenant. Et on peut se dire, mais ça a quoi faire le passé, c'est passé. Le futur, c'est fini, c'est pas encore là. Et en même temps, il y a deux sortes de choses qui passent. Il y a le saut que je suis ici maintenant et je peux en fait créer des tonalités ici maintenant en apportant des choses du passé ou en apportant des choses du futur. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose qui se passe, et c'est la façon dont j'interprète. C'est pour ça que moi, j'interpréterais un peu différemment ce qui s'est passé. C'est le fait que il y a, et c'est pour ça que c'est important aussi d'être conscient des tonalités, c'est qu'il y a une très forte mécanisme d'association. Donc, si on a un ressenti désagréable, c'est très dur, en fait, de juste rester avec ce ressenti désagréable ici et maintenant. Parce que tout de suite, ce ressenti désagréable a l'air immédiatement évoquer d'autres ressentis désagréables du passé. Et après, il peut y avoir une construction de « c'est toujours comme ça, ça n'arrête jamais ». Et donc, moi, généralement, je verrais ça comme plus une association, parce que c'est le même ton, ça a le même goût de quelque chose, et donc, paf, ça s'associe à ce qui vient du passé. Et je pense que le Bouddha aussi, il parle de ça quand il parle de la tonalité du passé. Il parle d'une certaine tonalité que cette tonalité ici maintenant va évoquer, s'associer à la tonalité du passé qui va faire que de nouveau, il va y avoir une amplification. Et je pense que de la même manière, vous avez une tonalité agréable et ça va être dur de nouveau, souvent, de rester juste avec le contact, avec cette tonalité, ici et maintenant. Et qu'elle ne devienne pas associative. Et là, on peut partir dans une association dans le passé, et c'est ça qui est très intéressant, vous montrer comment cette association du passé, à cause du temps qui passe, et de la notion, enfin, cette expérience d'impermanence devient de la nostalgie. Et après, le ressenti va partir dans quelque chose de beaucoup plus émotionnel, qui va évoquer de la tristesse et qui peut partir dans d'autres choses. Et donc, c'est ça aussi qui, avec la pleine conscience, on peut voir, il y a ce contact immédiat, tonalité immédiate, et comment ça peut être associatif très rapidement. Et alors, ça va s'étendre de différentes manières. Ça va partir de différentes... Et là, il y aura plus de construction, de pensée, d'émotion. Et là, et en fait, ce qui est fascinant, c'est que ça viendra de juste... Je regarde cette fleur. De voir cette fleur à cette tonalité, et pouf, je me retrouve, mais alors très loin. Et donc, c'est de voir que souvent, c'est ce qu'on va faire. Alors, soit on va partir dans l'association, ou soit, bien sûr, on peut partir dans l'appropriation. Ça, c'est aussi facile. On voit les tulipes en ce moment, les tulipes au Luxembourg, les tulipes ici, il y en a qui sont incroyables. Et alors, si on est jardinier ou jardinière, ouh, je veux celle-là dans mon jardin. Et là, en fait, on part dans le futur. On part dans une tonalité future.
Et comment éviter ça ?
C'est pas, alors, je pense qu'il faut faire attention. C'est pas qu'on doit éviter cela à tout prix, parce que c'est juste naturel et ça arrive.
Ça revient encore et encore, ce même mécanisme, c'est insupportable.
De nouveau, je pense que c'est un peu naturel, c'est humain. Donc il faut voir qu'on n'est pas en train de vouloir réduire de 95% d'être auto-centré et associé et tout ça à 0%. C'est ça qu'il faut faire très attention, mais qu'on veut diminuer un petit peu le ratio, je ne sais pas comment on dit ça en français, et plus dans les 50%. Je pense qu'il faut vraiment voir ça. On n'est pas, c'est pas une méthode d'éradication, mais c'est plutôt une méthode de déamplification. Et donc de nous aider à être plus avec ce qui est, mais tout en sachant qu'on va être un petit peu amené de ce côté, un petit peu amené de ce côté, et de manière à ne pas trop partir loin de là où on était. Je pense que, c'est par exemple, c'est, je pense que c'est quelque chose qu'on peut cultiver, qu'on peut faire, et ça ne va pas nous aider seulement dans le sens du contact et de la tonalité, mais par exemple, c'est quelque chose qui pourrait nous aider à écouter quelqu'un mieux. Et au fait qu'on essaie de totalement écouter la personne ici et maintenant, de faire attention de ne pas partir dans les associations, passer dans les associations futures, ou dans ce que je voudrais ou voudrais pas, mais d'être vraiment avec la personne, d'écouter la personne. Et quand on répond à la personne, il y a souvent quelque chose d'un peu magique qui se fait, qu'on va vraiment répondre quelque chose qui sera approprié et bienveillant, et du moment, parce qu'on est vraiment là. Donc c'est vraiment pour nous aider à être plus là, mais pas juste pour être là, mais dans le sens que en étant là, plus dans toutes les conditions qui se passent, il peut y avoir ces moments qu'on pourrait dire plus créatifs, plus bienveillants. Donc c'est pas pour, mais c'est pas pour le stopper complètement, parce que ça, je pense que c'est juste la fonction. Je pense qu'il y a la fonction du truc, la répétition de la fonction qui devient un schéma habituel qui va nous coincer. On va essayer de le ramener à la fonction plus créative. Et après, selon les conditions, on sera plus à même d'être ici et maintenant ou plus pris et parti un petit peu.
Ce qui peut être utile aussi, de passer du temps à analyser ce qui a pu se passer dans le passé.
Oui, oui, alors c'est là, après c'est, bien sûr, on peut avoir des rêves pour le futur, se projeter d'une façon qui est bénéfique, qui va vraiment nous faire mouvoir d'une façon bienveillante, créative, etc. Et il y a aussi une façon de se pencher sur le passé, le ressenti du passé, ce qui s'est passé dans le passé, mais comment on le fait ? Ça, c'est parce que souvent, quand on retourne vers le passé, souvent c'est soit on veut reproduire quelque chose du passé qui est relativement impossible. On peut avoir des conditions similaires, mais ça va être dur de reproduire exactement la même chose. Des fois, je vois les gens, quand ils font la méditation, dans le passé, ils ont eu une méditation comme ça, puis après, la prochaine méditation, ils essaient de faire exactement la même chose, et souvent, ça ne va pas marcher. Et où, autrement, les gens reviennent dans le passé, et c'est comme si seulement ça ne s'était pas passé, et ils essaient de réinventer le passé dans le passé. Alors ça ne va pas être très utile, mais ce qui peut être utile, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je verrai autrement maintenant?
Et d'ailleurs, le fait que dans le moment présent, on ait une association qui nous ramène dans le passé peut nous donner un élément de compréhension.
Oui.
On y retourne et « Ah, mais c'était pour ça !»
Donc, oui. Donc, je pense que c'est « Est-ce que, quand on revient dans le passé, est-ce que ça va être éclairant, bienveillant, avec stabilité, ouverture, ou est-ce qu'on va être submergé, on va partir et ça va être plus embêtant, pour être bien. Oui.
Je vais poser la question, quelle est la place de la pensée quand on parle, parce que j'étais trop bavarde, je me trouvais que je pensais beaucoup. Et en même temps, bon, bah, c'était inspirant aussi, créer de voir les couleurs et tout ça. Mais je me posais la question, quelle était la place quand on faisait la méditation en marchant, parce que je trouve que ça travaille beaucoup plus en fait.
Alors, il faut voir qu'il y a des personnes qui trouvent la méditation assise plus calmante, et il y a des gens qui trouvent la méditation marchée beaucoup plus calmante. Et ça, c'est un peu un style. Il y a des gens qui, si ça bouge, c'est plus difficile à trouver de la stabilité. Et d'autres personnes, si ça bouge pas du tout, c'est un peu contraignant, ça va pas les aider. Et donc, il faut voir un peu que pour certains, la marche va être plus déstabilisante dans le sens qu'on aura l'impression qu'il y a moins de focalisation, qu'il y a moins de... On a l'impression d'avoir plus de pensées, soit parce qu'il y a plus de pensées dans le mouvement, ou soit parce qu'il y a plus de pensées, parce qu'il y a plus de choses autour. Et là, généralement, si c'est comme ça, de revenir à un objet très simple, revenir juste les pieds qui marchent, juste l'air sur la figure, revenir à quelque chose de très simple. Et après, il faut voir si on a besoin de marcher plus lentement ou à un rythme plus soutenu, ce qui va convenir. Et des fois, de marcher un peu plus lentement et de vraiment se focaliser sur les pieds, par exemple, ça peut aider. Et donc, on trouvera un moyen de faire la marche qui sera un peu équivalent à quand on est assis. Mais oui, pour des personnes, c'est un peu plus difficile. Et pour d'autres, de s'asseoir, en fait, va être si contraignant, qu'en fait, ça va générer plus de pensées. Et donc là, ils auront besoin de faire une méditation qui sera moins contraignante, comme le balayage du corps ou d'écouter les sons, pour les aider à avoir apporter un peu ce calme, cette focalisation. Oui.
Est-ce que la méditation en marchant, est-ce que c'est un complément, une alternative par rapport à la méditation assise, c'est conseillé ou c'est quoi la comparaison?
Alors vraiment, il faut voir que toutes les positions sont égales. Donc dans un sens c'est un complément, dans un sens c'est alternatif. Parce qu'il y a des gens qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas être dans la position assise. Et alors, pour ces personnes, s'ils peuvent marcher, la position de marche est un alternatif très bon. Ou pour certaines personnes qui ne peuvent pas marcher non plus, en fait, de faire la méditation allongée sera aussi une alternative, qui sera aussi valable. Donc, moi, je connais une enseignante, une nonne thaïlandaise, quand elle enseigne la méditation, alors là, c'est un peu dur, parce que vous faites une heure assis, une heure marcher, une heure debout, une heure allongée. Alors là, vous faites chacun paf, paf, paf. Alors, et moi, je peux faire une heure assise, une heure de marche, mais une heure debout, ça serait dur. J'aurais du mal avec ma physiologie d'être une heure debout. Donc, selon la physiologie, selon les conditions, l'assise sera meilleure pour certaines personnes, d'autres être allongées, d'autres la marche, d'autres même être debout. Il y a des gens qui peuvent être debout pendant longtemps. Donc, c'est vraiment des positions qui peuvent être utiles. Juste de voir nouveau les positions comme utiles. Il est plus facile de faire la méditation assise parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de place et généralement, vous pouvez trouver un endroit pour vous asseoir. C'est pour ça que généralement, en groupe, la méditation assise est plus utilisée parce que là, on a un petit jardin, mais dans d'autres endroits, il y aurait peu... Enfin, moi, quand j'enseignais à New York, dans un gratte-ciel au, je sais pas, 15e étage, il y avait ce petit appartement dans lequel on était. On ne pouvait pas... L'ascenseur ne marchait pas en plus, très bien, alors on ne pouvait pas aller se promener. Alors, on faisait tous de la marche, mais alors 10 minutes courtes. Et donc, ça dépend. C'est pour ça que généralement, on fait plus de méditation assise, pas parce que c'est mieux, mais généralement, c'est plus pratique par rapport au lieu. Mais autrement, tous sont complémentaires et alternatifs dans le sens qu'est-ce qui vous convient, à quel moment. Et donc, des fois... Ça va être mieux de faire la marche. Hein. Pour certaines personnes, je recommanderais plus la méditation marchée et d'autres allongées. Puis d'autres peuvent faire les trois ou quatre. Ça ne fait pas trop de différence.
Et si quelqu'un fait uniquement assis, c'est pas un problème non plus.
Non, ce n'est pas un problème non plus. C'est vraiment ce qui va convenir à la personne. Parce que l'idée, ce n'est pas tellement que la position est sacrée et je dois faire toutes ces positions. Mais plus, est-ce que de méditer assise par exemple, va m'aider à avoir plus de stabilité, plus d'ouverture, plus de calme, plus de clarté. C'est ça qui importe, pas la position actuelle en fait. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Puis je voulais dire avant la fin de cette session, je voulais parler en fait de générosité. Alors bien sûr. Un petit peu de générosité par rapport à la boîte, à la Dana. Et donc, je voulais parler un peu plus du système de générosité pour voir que ce n'est pas juste un moyen de payer l'enseignant, de subvenir à mes besoins, mais en fait que c'est, on pourrait dire, une orientation. Donc, différents groupes avec différentes orientations. Et là, avec l'orientation à Terre d'éveil, vraiment, il y a cet esprit, cette idée de cultiver la générosité. Et donc, ce n'est pas juste cultiver la générosité par rapport aux dons financiers qui vont aller dans la boîte, mais vraiment, c'est cultiver la générosité, on pourrait dire, dans toute l'organisation. Et ce qui fait que c'est en fait une organisation bénévole. Et moi, je suis toujours admirative des gens qui forment l'organisation, parce que l'organisation n'est que les gens qui en font partie, qui la maintiennent, qui la soutiennent en tant que bénévole depuis des années. Et moi, je trouve que c'est un beau cadeau. Alors, bien sûr, en partie, eux aussi sont intéressés par la méditation et en bénéficient, mais ce n'est pas juste dans leur propre intérêt, c'est aussi dans l'intérêt des autres, cette générosité pour que ça soit accessible. Et donc, il faut voir les deux pendants de cette générosité, c'est le fait qu'on on donne généreusement de sa personne de différentes manières, mais aussi que cette générosité va aussi aider à l'accessibilité, que les gens, ça sera accessible pour les gens. Et donc, par exemple, de faire la Dana pour moi, ça fait que vous n'avez pas un prix fixe, et donc les gens qui ont plus de moyens pourront mettre plus, les gens qui en ont moins en mettront moins, et en fait, les gens qui en ont plus vont soutenir, avoir de la générosité par rapport aux autres qui en ont moins. Et de la même manière, les managers qui s'occupent de la retraite, qui prennent les inscriptions et tout ça, ils donnent leur temps généreusement. Et parce qu'ils ne sont pas rétribués, ça fait que de nouveau, c'est plus accessible. Et de la même manière, moi, pour venir ici et pour que ce soit accessible à vous, que je sois accessible à vous. En fait, ma sœur s'occupe de ma mère samedi, Steven s'occupe de ma mère aujourd'hui, et moi, je peux venir ici. Et donc, il y a aussi la générosité de ma famille qui me soutient, et moi qui essaie généreusement de les soutenir quand ils en ont besoin. Et donc, de voir que cet esprit de Dana, la façon dont on fait ça, c'est dans une plus grande optique, où on va essayer de cultiver la générosité, pas seulement pour soi-même, pour les proches, mais aussi dans une ouverture aux autres. Et donc que ça va être accessible, pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Et donc je voulais juste faire remarquer ça par rapport aux gens de Terre d'Éveil qui vraiment, avec leur bénévolat, sont aussi très généreux et participent à cette accessibilité et cette générosité. Et donc, si vous mettez des dons pour moi, là, je vous en remercierai beaucoup. Et en même temps, on en parlera peut-être un peu plus à la fin aussi, si jamais il y avait des gens qui veulent être des managers, qui veulent aider le CA et tout ça, et aussi participer à cette générosité, à cette accessibilité, vous êtes toujours le bienvenu. Et dans cela, il y a le point par rapport à
l'adhésion.
Oui,
j'en profite pour remercier beaucoup Martine pour ce petit message, très, très généreux de ta part. Et c'est vrai que moi je suis bénévole depuis pas très longtemps, mais j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent participer aux retraites et qui ne sont pas du tout à jour de leur adhésion, qui viennent régulièrement bénéficier des enseignements et de tout ce qu'effectivement les managers mettent en place pour que ces retraites puissent avoir lieu. Mais c'est comme si dans cette association-là, il n'était pas obligatoire d'adhérer. Alors que dans toutes les associations, l'adhésion est obligatoire, ça fait partie du fonctionnement d'une association. Donc il faut adhérer tous les ans, cotiser tous les ans. Ça permet effectivement de louer ce genre de salle qui est assez onéreuse, hein, de payer les frais de transport, les photocopies. Enfin, comme dans toutes les associations, on ne fonctionne que grâce aux adhésions. Mais je suis surprise de constater qu'à Terre d'Éveil, c'est pas obligatoire. Les gens peuvent venir à 30 retraites sans jamais renouveler leur adhésion. Donc je profite de cette occasion pour vous dire que ça me semble très important d'être à jour de votre cotisation et qu'on ne soit pas obligé de mettre en place des mesures draconiennes du style « si vous n'êtes pas adhérent, c'est fini, vous ne pourrez plus venir ». Donc que ça se fasse naturellement, spontanément, ça me semble assez normal et naturel.
Oui, mais aussi, je pense qu'il faut faire attention qu'on doit adhérer en France à une association pour les besoins d'être assuré.
En plus, oui.
Voilà. C'est pas dans tous les pays comme ça. Et donc, il y a d'un côté l'adhésion pour participer à la construction généreuse de cette association, mais aussi l'adhésion parce que c'est un truc légal qu'il faut avoir. Donc, j'espère que vous allez tous vous mettre à jour bientôt, si pas tout de suite.
Oui.
Vous croyez qu'on peut venir pendant 30 ans à Terre d'Éveil sans adhérer?
Tous les ans, vous nous
demandez gentiment le même mois la cotisation, je la donne.
Non, mais vous peut-être, mais je...
Pas la liste, j'ai la liste. C'est normal, c'est vraiment la moindre des choses.
Mais c'est légal.
Très élevé, en plus.
C'est une question d'éthique, je dirais même.
Non, je pense que non, il faut faire attention. Elle fait un peu une hyperbole.
Oui, j'ai un peu exagéré.
Non, il y a certaines personnes qui viennent et qui soient oublient d'adhérer. Ou ne pensent pas que c'est important d'adhérer. Parce qu'ils ne sont pas sûrs.
Ils demandent régulièrement Terre d'Éveil.
Mais oui, mais non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Oui, je ne sais jamais rien, j'ai complètement oublié.
Voilà.
Oui, mais on vous l'a demandé.
Voilà. Alors là, on est en train de suggérer que vous le fassiez naturellement. Et si vous ne le faites pas naturellement, on vous rappellera. Voilà, merci. Alors, on va revenir par rapport à ce qui se passe pour la pause déjeuner. Donc, la salle va rester en silence. Donc, les gens peuvent se reposer s'ils veulent et tout ça. Après, l'histoire de si elle va être fermée ou ouverte, ça va être... Sophia va en parler. La salle, là où il y a les tables... aussi va être en silence pour que les gens qui veulent manger en silence puissent manger en silence. Dehors, les gens au fond pourront parler parce qu'il y aura peut-être d'autres gens qui vont parler, donc vous pouvez parler. Bien sûr, si vous voulez manger au dehors, vous pourrez parler avec, bien sûr, apportant de la pleine conscience, de l'attention bienveillante. Et on se retrouve ici à 2h moins 10. Comme ça, à 2h, on peut commencer.
Et pour la salle, donc, a priori, ce serait bien qu'une personne, peut-être autre que les managers, si vous voulez rester dans cette salle, se charge de la clé, mais surtout s'assurer que la salle est fermée, parce qu'il y a apparemment beaucoup de vols au Forum 104, donc il faut absolument que quelqu'un veille à fermer ou ouvrir la salle.
Ou alors personne ne veut rester ici.
Soit on ferme.
Et on ferme la salle et on revient à 2h moins le quart, et ça sera ouvert.
Je viens simplement déjeuner dehors, mais pas loin, je ne sors pas. Et je reviens faire une sieste, donc je reviens. On peut me retrouver dehors si quelqu'un veut être dans la salle avant que je sois. On peut me retrouver dehors.